voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et nous allons parler ce soir de la concertation nationale ouverte au Congo la semaine dernière. Avant son ouverture mercredi, certains opposants et membres de la société civile congolaise se montraient sceptiques, estimant qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre de cette énième concertation destinée uniquement, selon eux, à un partage de gâteaux entre participants en vue de la présidentielle à venir. Ont-ils eu raison et quel est réellement le bilan de cette concertation ? Nous en parlerons juste après avoir analysé le conflit armé au Tigré en Éthiopie avec notre invité. Et je précise qu'il s'exprime en son nom personnel et pas au nom de l'Assemblée nationale du Sénégal. On l'écoute.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Cheikh Tidiane Gadio, bonjour.
Oui, bonjour.
Vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ancien ministre des Affaires étrangères. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé que l'armée a pris le contrôle de la capitale tigréenne Mekele et a mené à bien, dit-il, les opérations militaires dans la région du Tigré. Peut-on donc dire que le conflit est terminé ?
Malheureusement, c'est peut-être même le véritable début du conflit. On a l'habitude dans cette partie de l'Afrique de conflits de longue durée. L'Éthiopie en a souffert pendant plusieurs décennies. On croyait que ce grand pays d'Afrique, symbole de notre unité, symbole de nos espérances, on avait espoir que ce pays avait tourné cette page. En tant que panafricaniste, je suis malheureux. Malheureux devant ce qu'on voit, ce qu'on entend. 45 000 réfugiés déjà au Soudan. Pour moi, le conflit n'est pas terminé. On connaît la résilience des Tigréens, on connaît leur histoire.
Est-ce qu'on peut envisager que la porte diplomatique s'ouvre maintenant pour essayer de régler par des discussions ce que l'offensive militaire n'a pas pu résoudre ?
C'est une question extrêmement pertinente. Il n'est jamais trop tard pour l'action diplomatique. En revanche, je suis aussi très, très malheureux à cause de la faible réactivité des États africains. Tous les 54 États africains se devaient de se mettre immédiatement au chevet de cette crise, de ce conflit, parce que l'Éthiopie n'est pas n'importe quel pays en Afrique. L'Éthiopie, c'est le siège de l'Union africaine.
Mais à ce sujet, l'Union africaine a nommé trois médiateurs, trois anciens présidents, mais les autorités éthiopiennes ont maintenu l'offensive sur Mekele.
Ça veut dire que toutes les semaines où on préparait ce conflit, où les informations circulaient sur la détérioration de la situation, d'abord les joutes verbales, les menaces et autres, on était tous là. Le fait que les populations aient commencé à prendre peur, commencé à bouger, est-ce que l'Union africaine a bougé en ce moment-là, au tout début? Vous savez, j'ai toujours critiqué mon continent sur nos échecs en matière de prévention des conflits. Il nous est plus facile, malheureusement, d'intervenir pour éteindre des incendies plutôt que de prévenir des incendies. Alors, cette crise-là n'est pas née il y a un mois ou deux mois. C'est une longue crise larvée. On n'a pas une capacité d'anticipation. Et je trouve inacceptable aussi, pour dire les choses honnêtement, que le premier ministre de l'Éthiopie éconduise des chefs d'État africains, d'anciens chefs d'État africains, de la trempe des chefs d'État africains.
Il a déclaré les avoir reçus par politesse, par respect, mais est resté dans l'option militaire.
Ce qui est surprenant, c'est qu'ils disent aux gens, ne vous mêlez pas de ça, c'est un problème interne à l'Éthiopie. Depuis quand on raisonne comme ça en Afrique? Au début, je faisais partie des Africains qui voyaient Abiy Ahmed, une étoile montante de la nouvelle génération politique en Afrique, un homme de paix, fondamentalement. Il s'est métamorphosé complètement et a pris l'option de la violence armée. Nous sommes choqués.
Vous dites que l'Union africaine a failli parce qu'elle n'a pas su ou pu anticiper cette crise. Qu'aurait-elle dû faire, d'après vous, pour empêcher que le conflit armé n'aille aussi loin?
L'Union africaine, via la puissante voix du président Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'organisation, aurait dû taper sur la table de façon non équivoque et non ambiguë pour dire au premier ministre éthiopien qu'on ne peut pas accepter une guerre dans son pays. Et qu'en réalité, s'il faisait ce choix-là, on pouvait aller jusqu'à proposer de déménager temporairement, provisoirement, l'Union africaine dans un autre pays, jusqu'à ce que l'Éthiopie accepte d'être un pays de paix. J'ai eu la chance de participer à plusieurs expériences de médiation, mais il m'arrivait de dire parfois au départ d'une médiation, écoutez, vous avez deux options. Vous acceptez de vous mettre autour de la table tout de suite, on évite 50 000 morts, 100 000 morts. Vous refusez systématiquement, on vous laisse d'abord vous tuer 50 000 à 100 000 de vos citoyens, après on va se retrouver pour discuter. Et souvent ça les gênait.
Est-ce qu'il y a un risque que le TPLF change de stratégie et se lance peut-être dans une guerre asymétrique qui déstabilise déjà la Somalie voisine?
Je ne soutiens aucune revendication de séparatisme. L'Afrique est assez balkanisée comme ça, avec 54 États, ça suffit. Quand ils ont dit que hier, en fait, qu'ils n'ont pas perdu la capitale, mais que c'est un choix tactique de se retirer et de continuer la guerre sous d'autres formes, qu'est-ce qu'ils veulent dire par sous d'autres formes? C'est clair que la guerre n'est pas terminée.
Est-ce que vous craignez si peut-être une alliance entre le TPLF et Al-Shabaab qui opère en Somalie voisine?
Je ne le souhaite pas, je ne le pense pas, je ne le veux pas, parce que les Tigréens, quand même, dans leur histoire récente, ont toujours été des forces progressistes. Hein. Si on considère le rôle que les Meles Zenawi ont joué pour renverser la dictature à Addis Abeba, mais je ne pense pas qu'ils en arrivent là et qu'ils veuillent déstabiliser leur pays. Il n'est pas tard pour discuter, il n'est jamais tard pour discuter. Malheureusement, on discute mieux avec zéro mort que de discuter après 30 000 morts ou 20 000 morts. Il y a beaucoup d'amertume, il y a beaucoup de peine.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ancien ministre des Affaires étrangères et président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité, gouvernance.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous en venons à présent à notre débat, une concertation nationale politique à 4 mois de la présidentielle au Congo. Pourquoi faire? Et ses conclusions vont-elles permettre d'éviter des élections tendues en mars prochain? Nos invités sont déjà en ligne. Il s'agit de Jean-Bruce Pambou Malonda, porte-parole du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, opposition. Bonsoir, monsieur Malonda.
Bonsoir, madame.
Patrice Ndion, vous êtes responsable du PCT en France, le parti au pouvoir. Bonsoir, monsieur Ndion.
Bonsoir, madame.
Cephas Ewangi, vous êtes à Brazzaville, coordonnateur national de Coraged. Ce sont les réseaux et associations de la société civile œuvrant pour la gouvernance et démocratique et électorale. Alors, je vais commencer par vous du parti au pouvoir, M. Dion. Les partis politiques, hein, membres de la société civile et aussi de la majorité présidentielle, une partie de l'opposition ont participé à cette rencontre qui a eu lieu du 25 au 27 novembre dernier à Madingou. Il y a une satisfaction de la part des organisateurs qui affirment qu'il y a une grande mobilisation, qui se réjouit de cette présence. Mais quand on connaît la situation financière difficile du Congo, on peut se dire c'est normal puisqu'il y avait des perdièmes à distribuer, non?
Oh, ne rabaissez pas le débat politique à ce niveau.
Mais il y a eu distribution de perdièmes, je ne rabaisse pas. On a pris en charge les participants et on a distribué des perdièmes.
Vous connaissez un seul pays dans le monde, vous connaissez une seule organisation, fut-elle internationale, qui peut organiser une grande messe politique sans que l'on puisse prendre en charge les participants?
C'est bien que vous le confirmiez alors.
S'il vous plaît, madame, oui. Avec tout le respect que je vous dois, il faut savoir que la concertation politique qui a eu lieu à Madingou n'est pas une première. Et nous sommes à notre sixième concertation, puisque, comme vous le savez, au Congo, le dialogue national est inscrit dans le marbre de la Constitution. C'est constitutionnel. Et c'est maintenant un rituel, une coutume, finalement, puisque à chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous politique, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle ou législative, c'est toujours précédé par un dialogue national ou une concertation politique. Cela fut ainsi la semaine dernière. Donc c'est tout à fait normal que les Congolais, autour d'une table, puissent s'asseoir, discuter, échanger, pour que justement nous puissions aller à des élections présidentielles apaisées, transparentes, libre, indépendante, pour que nous puissions, puisque diriger, c'est prévoir quand même. Hein. On sait qu'en Afrique, en règle générale, et au Congo aussi, cela ne fait pas une exception, généralement, lorsqu'il y a une élection présidentielle, ça peut entraîner à des troubles. Puisque l'opposition a demandé à cri, a demandé plusieurs fois la tenue du dialogue national, eh bien, il était tout à fait normal que l'exécutif, à travers le gouvernement, puisse accepter de pouvoir organiser cette concertation politique.
Merci, M. Dior. En tout cas, vous nous avez dit que ce n'était pas les participants ne sont pas allés uniquement pour de l'argent. Je vais m'adresser donc à l'opposition qui est ici représentée par M. Malonda. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien.
D'accord.
J'ai bien suivi mon vis-à-vis.
Oui, voilà. Ceux de l'opposition qui se sont donc rendus à ce dialogue, qui y ont participé, ce n'était pas pour des perdièmes. Donc, je suppose que vous êtes d'accord avec M. Malonda ? Avec M. Dion, pardon.
Alors, je voudrais d'abord repréciser une chose. Le Congrès pour la renaissance du Congo n'est pas un mouvement de l'opposition, c'est tout un mouvement patriotique. Nous travaillons avec des vrais opposants et aussi avec les anciens partisans du pouvoir qui se sont repentis, qui ont regretté l'exarque, qui sont prêts à nous rejoindre pour œuvrer pour la République du Congo dans l'intérêt du peuple. Alors, sur ces entrefaites, je vais rebondir, je vais revenir sur ce que mon compatriote a dit tout à l'heure. Bon, pour le CRC, le dialogue qui s'est tenu dans un coin reculé de Mandingou, quelque part, pour nous, c'est un non-événement. Hein, c'est un non-événement. Nous savons que le pouvoir en place a, dans ses habitudes, d'organiser ses supercheries, ses dialogues. Bien sûr que le dialogue fait partie de notre culture, mais pas ce dialogue-là organisé par le CCT. Parce que pour nous, c'est un dialogue qui n'est pas équitable, qui est déséquilibré. Nous avons en face de nous quelqu'un. En fait, c'est un monologue. Les opposants qui se sont rendus à Mandingou, pour nous, sont partis cautionner justement la tricherie, la grande fraude électorale qui s'annonce. Donc, mon vis-à-vis de...
Pour vous, c'est aller valider la prochaine candidature, la prochaine élection du président Sassou ?
C'est légitimer la prochaine victoire, la prochaine tricherie massive qui se prépare. Ça a toujours été le cas. Comme ça, Denis Sassou Nguesso a toujours agi ainsi. Chaque fois, c'est pour désamorcer, c'est pour emberlificoter, pour endormir, empoisonner, anesthésier le peuple. Il sert chaque fois des tours de
passe. Donc l'opposition admet qu'elle a déjà perdu le scrutin avant même d'y être allée.
Ben, écoutez, il n'y a jamais eu d'élection crédible sous M. Denis Sassou Nguesso. Il les gagne toutes, pas parce que justement le peuple vote, mais simplement parce qu'il usurpe la victoire au peuple, avec, par les menaces, par les intimidations, l'emprisonnement des opposants. Sassou Nguesso est toujours arrangé à se maintenir au pouvoir. Ça, c'est connu de tout le monde, dans le monde entier. Nous savons qu'il a ces méthodes-là sont les siennes et, évidemment, chaque fois qu'il se réunit comme
mais dans ce cas, qu'est-ce qui oblige dans cette partie de l'opposition à aller à ce dialogue et après faire des critiques comme on vient de les entendre de vous, puisque même le chef de file de l'opposition était à cette rencontre?
Oui, mais je veux dire ceci. Pour moi, c'est des gastrolâtres. Hein. C'est des gens qui n'ont pas honte. Et nous avons dit, et je répète, que le CRC, pour nous, n'est pas un mouvement d'opposition. Nous sommes des républicains qui travaillent avec des Congolais honnêtes. Alors, tous ceux qui sont partis à ce talent, pour nous, ce sont des gens qui sont allés cautionner, accompagner. C'est des gastrolâtres, des gens qui mangent à ventre déboutonné depuis des années, qui n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte.
Y compris le leader de l'opposition ?
Ben, écoutez, qu'est-il allé faire à ce dialogue ? Je me pose cette question, sachant que...
L'objectif était de discuter des conditions de l'organisation des élections apaisées et transparentes l'année prochaine.
De l'élection, madame. L'élection dernière a été gagnée par Mokoko, qui est aujourd'hui emprisonné. De quelle élection ? Ils veulent-ils parler ? Sous Sassou ? Non ? C'est pourquoi nous, au CRC, nous sommes opposés à la tenue des élections. Et ce dialogue-là, pour nous, est un non-événement.
Merci.
Et l'élection, pour nous, c'était un vacarme.
Monsieur Sefa Sewangi, quel était l'agenda défendu par la société civile à cette rencontre ? Qu'est-ce qu'elle a pu apporter comme contribution et qui a été peut-être prise en compte ?
Bon, il faut d'abord dire quel était pour cette concertation. Le thème général était « Consolidant les acquis de la démocratie par des élections libres, transparentes ». C'était ça l'objectif. Et vous savez que les démocraties en construction, à chaque fois qu'on arrive à la phase électorale, Cela essaie de s'assimiler un peu comme dans le langage de la navigation aérienne, quand on est dans l'avion, on appelle les zones de turbulence. Or, il faut que nous arrivions à faire que les élections soient ces moments de tranquillité, ce moment d'agrément où le peuple exerce librement et dignement ses droits de souveraineté en régime démocratique. Et comme on sait que les élections sont généralement contestées, et au regard même des propos que nous avons eus, des frères qui viennent de parler tout de suite, a priori, on est très négatif, mais conscient qu'il y a des gens qui n'y croient pas en ce qu'on est en train de faire. Et
mais est-ce que vous vous y croyez? Est-ce que vous vous y croyez? Parce que à l'entame de mon propos, j'ai mentionné les dialogues, les concertations précédentes, EO 2011 ou de Lisier en 2013 entre autres. Est-ce que vous y croyez? Et ce qui a été dit à cette conférence, est-ce que ça c'est allé dans le sens de ce que vous, vous espériez au niveau de la société civile pour arriver à cette élection transparente et calme?
Ah, il faut croire pour que notre pays non seulement continue à avancer sur la voie de la démocratie, mais la consolide davantage. Et nous savons qu'une élection... ne peut jamais être parfaite. Il y a toujours des imperfections. Ça dépend de la façon les uns des autres y prennent. On peut prendre un petit aspect négatif et on aggraver de
nuire et à saler. Monsieur Wangé, pourriez-vous être plus précis? Qu'est-ce qui a été dit à cette réunion qui est susceptible de participer à cette élection transparente?
Voilà, les consolidations de la passion pour des élections libres, transparentes et apaisées. Et au niveau de cette concertation, il y a eu deux commissions qui avaient été mises en place. Une commission avait pour but de discuter sur le cadre juridique des élections au Congo et de faire les observations sur la CENI, qui est l'organe en charge de gérer le processus électoral. On sent d'accord la manière que la CENI fonctionne. Est-ce qu'on a des critiques à faire, qu'on a des observations à faire pour voir comment les choses peuvent être arrêtées? Ça, c'était une des commissions. Dans la commission de le cadrage électoral et par le cadrage...
La ligne se dégrade avec vous, M. Ewangé. Nous sommes obligés de vous interrompre. On va revenir à vous dans un instant en espérant que la ligne sera meilleure. Le temps de poser d'écouter Edouard Ni avec les questions des auditeurs qui participent aussi sur nos réseaux sociaux. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Et nous avons quelques questions des auditeurs.
Effectivement, qu'on écoutera tout à l'heure.
Et on va marquer une toute petite pause. Restez avec nous, la suite du débat dans le grand rendez-vous, c'est dans quelques instants.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et votre débat se poursuit sur la concertation nationale qui s'est achevée vendredi dernier au Congo avec nos invités. Patrick Dion, président du PCT en France, c'est le parti au pouvoir. Cephas Ewangi, coordonnateur national des réseaux et associations de la société civile, œuvrant pour la gouvernance démocratique et électorale. Il est en ligne de Brazzaville. Et Jean-Bruce Pambou Malonda, porte-parole du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Edouard, avant de revenir à nos invités, il y a deux questions qui leur sont adressées. D'abord, celle de Amar.
Bien sûr, Amar qui demande à M. Ewangé, le Conseil supérieur de la liberté de la communication au Congo avait constaté une campagne déguisée sur les médias et l'opposition se disait exclue des médias d'État. Est-ce que vous confirmez ce fait?
Allô?
Oui, M. Ewangé, allez-y s'il vous plaît.
Vous parlez de, je n'ai pas bien compris la question.
La question d'Amar hein, qui dit que le Conseil supérieur de la liberté de la communication avait constaté une campagne déguisée sur les médias et l'opposition se disait exclue des médias d'État. Est-ce que vous confirmez ce fait?
Ce que je confirme, c'est que le Conseil supérieur de la liberté de communication est un organe constitutionnel en charge de réguler le domaine de la communication en République du Congo. À rencontrer les différentes composantes, les partis de la majorité, les partis du centre, les partis de l'opposition, y compris la société civile, en exprimant la préoccupation pour que les uns et les autres respectent les règles du jeu et que nous n'étions pas encore en période ouverte pour la campagne présidentielle et qu'il était anormal qu'il y ait certains partis qui prennent de l'avance comme si pour mener de manière déguisée la campagne présidentielle et leur attention a été attirée. Oui,
il s'agissait du PCT.
Bon, généralement, des partis qui étaient proches de la majorité présidentielle, mais ces partis se défendent pour dire qu'ils ne sont pas encore en campagne présidentielle, mais ils sont en train de mener leur action de restructuration, mais les autres apprécient cela comme étant une campagne déguisée. Bon, voilà un peu comment...
Une campagne avant la campagne officielle. Merci beaucoup. Édouard, on poursuit avec la question de Ousmane.
Ousmane qui demande à M. Dion, croyez-vous vraiment à la transparence de cette élection, monsieur?
Je prends la question plutôt adressée à M. Malonda.
Monsieur Pambou Malonda.
Alors c'est notre position. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes contre la tenue de toute élection au Congo. Nous savons qu'aussi longtemps que M. Denis Sassou Nguesso sera au pouvoir, autant il n'y aura pas d'élection crédible d'ailleurs. Vous suivez l'information, vous savez quelles sont les conditions, dans quelles conditions Denis Sassou Nguesso a succédé à lui-même. Donc il ne peut pas avoir... C'est un président illégitime. Tout ce qu'il fait est illégitime. Et bien, je voudrais aussi rebondir par cette occasion sur ce que mon frère de M. Ewenge a dit. Non, écoutez, moi je méfie toujours des gens qui sont sans position. J'appelle ça un peu de l'hypocrisie. On ne peut pas, chaque fois que les choses... vont pas bien au Congo, prétexter la construction d'une démocratie. Donc, ça fait quand même, depuis 1997, nous avons eu une très belle expérience démocratique avec l'élection du président Pascal Lissouba. À ce moment, le peuple congolais était déjà mûr. Donc, c'est justifié, moi, prétexter que la démocratie congolaise est en construction. Voilà,
mais c'est, ça, c'est son point de vue, monsieur Ndian, il a le droit, monsieur Malonda. C'est son point de vue.
Quand il dit des faussetés, il faut les combattre. Il faut les combattre. C'est une fausseté.
Il n'est pas...
La démocratie congolaise est en construction.
Merci.
Je suis désolé, la démocratie congolaise est là. Ben, c'est parce qu'il y a en face de nous des gens qui ne sont pas c'est des kleptocrates, c'est tout.
Merci, monsieur Malonda. On va revenir à monsieur Dion qui ne s'est pas exprimé depuis un moment. Monsieur Dion, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
On va commenter rapidement tout à l'heure les conclusions de ce dialogue et en quoi est-ce qu'elles peuvent aider à obtenir cette fois des élections apaisées en mars prochain. En tout cas, merci à vous, Édouard, que j'ai oublié de remercier. Alors, mais avant, je voudrais que vous vous exprimiez aussi sur cet autre reproche qui a été fait à cette concertation, c'est son manque d'inclusivité. Certains opposants dénoncent l'absence des autres qui sont en détention, comme le général Mokoko. Il y a également d'autres opposants qui ont souhaité se rendre à ce dialogue, mais qui n'ont pas pu. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Écoutez, madame, avec tout le respect que je dois aux uns et aux autres, et particulièrement aux préoccupations des opposants, faut savoir que cette concertation politique est la sixième au Congo et était la plus nombreuse, en ce sens qu'il y a eu le plus grand nombre de participants, 147 au total. Et dans les 147 au total, pratiquement tout le monde était représenté. Nous avons eu le PCT, bien sûr, avec tous les partis de la majorité présidentielle. Nous avons eu tous les partis de l'opposition, nous avons eu le centre et nous avons eu également la société civile. Alors, je m'inscris en faux en ce que disait mon compatriote, M. Pambou Malonda Jean-Brice, qui disait que voilà, cette concertation politique, à laquelle ils n'ont pas d'ailleurs participé, pour des raisons qui leur appartiennent, était déséquilibrée. Hein, il n'était pas déséquilibré. Je me permets de rappeler deux chiffres importants. D'abord, au total, nous avons eu 147 participants. Dans les 147 participants, le PCT avait 15 membres. Alors 147, 15 sur 147, ça nous fait à peu près 10%. La majorité présidentielle au total, PCT plus les partis de la majorité présidentielle, au total 32 membres. 32 membres, ça nous fait autour de 21,76%. Le reste, s'il vous plaît, le reste, c'est-à-dire l'opposition, le centre et la société civile, c'était autour de 78%. Donc, ce n'était pas du tout déséquilibré. Ça, c'est de 1. Le deuxième chiffre que j'aimerais quand même dire
rapidement
à mon frère et compatriote, M. Pombo Malanda, que deux commissions ont été mises en place, importantes. Et dans la structuration de ces deux commissions, vraiment, elles étaient, la structuration était équitable. La commission numéro 1, cadre juridique des élections politiques en République du Congo et les constatations de la Commission nationale électorale indépendante, eh bien, elle était présidée par Henri Bouka, qui est bien sûr le président de la CNI. Dans sa structure, nous avons le premier vice-président PCT, majorité,
Monsieur Fernand Tabaye.
D'accord, Monsieur Dion. Votre démarche, votre argumentaire consiste à dire que cette concertation était représentative. Moi, je parlais de l'inclusivité de cette concertation et aussi des résultats obtenus, des conclusions obtenues. En quoi est-ce que cette fois, ces conclusions peuvent permettre d'obtenir des élections apaisées et qu'on n'assiste pas encore à des tensions comme lors des précédents scrutins?
Alors, sur l'inclusivité, je vous dirais une chose. Il est vrai qu'il y a certains partis politiques, notamment de l'opposition, qui ont crié haut et fort que voilà, ils n'étaient pas conviés. Madame, il me plaît de vous dire ceci. Vous le savez, c'est juste un rappel à vos auditeurs qu'au Congo, avec une population que nous avons de 4,5 millions à peu près, pour ne pas dire 5 millions, les partis politiques que nous avons au Congo, la majorité des partis politiques ne sont pas des partis politiques en tant que tels. C'est des partis ethniques. C'est des partis claniques. C'est des partis qui sont basés sur...
Et il revient au ministère de l'Intérieur de décider qui est le parti qui n'est pas clanique, qui ne l'est pas, qui peut participer, voilà. Qui peut ne pas participer.
C'est le travail qui a été fait, madame. Le ministère de l'Intérieur, avec son excellence le ministre Mboulou, a fait son travail.
Mais on a aussi accusé le ministère d'être jugé parti en même temps.
Mais non, pas du tout. Parce que c'était pas le dialogue. Si c'était un dialogue national... comme la Constitution l'exige, ça devait être M. Méry Martin, en tant que président du Conseil national du dialogue, qui devrait le présider. Comme c'était une concertation politique, eh bien, c'est à l'exécutif, au gouvernement, qui en est pris la paternité. Et donc, le gouvernement, avec son ministre de tutelle, qui s'occupe des questions électorales, le ministre Mboulou, c'était normal que lui puisse être le patron de cette grande messe politique.
Merci.
Donc,
merci.
Il a fait le talentage et on a exclu tous les partis qui sont que partis de non, c'est tout. On a pris les partis.
Merci monsieur Dior, mais ma question reste en suspens sur en quoi est-ce que qu'est-ce qui a été décidé là-bas qui puisse permettre d'avoir des élections apaisées. Mais vous n'allez pas monopoliser la parole. On va écouter à nouveau monsieur Malonda. Monsieur Malonda, vous avez écouté les explications de monsieur Dion qui insiste que cette concertation a été représentative, elle a été inclusive. Mais il y a aussi des reproches qu'on fait à l'opposition. Elle s'est montrée divisée face à ces concertations. Certains sont allés, d'autres ne sont pas allés. Mais quand l'opposition se comporte déjà ainsi, il y a de quoi s'inquiéter pour la prochaine présidentielle, alors même que le phénomène de coup chaos généralise un peu lors des élections en Afrique. Non ?
Mais bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que l'opposition a souvent cautionné, malheureusement, tout le jeu du pouvoir. Je pense que l'opposition manque de position, manque de position par rapport au pouvoir. Nous sommes comme des girouettes. D'entrée de jeu, je vous disais, avoir pris part à un tel dialogue, il faut dire que les problèmes du Congo sont tellement profonds qu'on ne peut pas résoudre les problèmes du Congo au cours d'un dialogue ou d'un bavardage de 3 jours. Le problème congolais ne se résume pas autour de la tenue des élections. Les problèmes sont plus profonds. Donc, je suis désolé, consterné de constater que l'opposition congolaise, je ne suis pas le représentant de l'opposition congolaise d'ailleurs, c'est pourquoi nous définissons plutôt comme des républicains, ceux-là qui pensent à la République, qui ne courent pas avec le pouvoir. Le pouvoir a gangrené, a phagocyté l'opposition aujourd'hui. Il n'y a presque plus de vraie opposition au Congo. C'est pourquoi, justement,
les problèmes à Kaya ne sont pas des opposants, puisque lui-même, il a dénoncé une parodie de dialogue et accuse lui-même ceux qui participent de se compromettre avec le pouvoir.
Alors, donc, évidemment, on ne va pas tous les mettre dans le même panier. Il y a des gens qui sont des opposants, qui sont restés dignes, qui sont restés intègres et qui continuent à défendre la cause de la République. Mais il y a ceux-là qui, depuis longtemps, accompagnent le PCT au pouvoir. On les connaît. Je vous prends de moi, j'ai le franc-parler, je veux parler de Mounari, par exemple. Mademoiselle Mounari qui a servi, on sait bien que c'était une des lieutenants de Pascal Issouba. Mais que va-t-elle faire avec un dictateur, quelqu'un qui a démis un président élu? On ne peut pas se dédire comme ça. Un
peu de personnalité, un peu de honte quand même pour la République.
Attendez, moi, est-ce que vous pouvez, on peut revenir au débat d'idées, s'il vous plaît. Alors, dites-nous, vous vous dites qu'il y avait d'autres choses plus importantes dont on pouvait discuter. C'est vrai que l'autre opposant, Clément Mirassa, qui n'a pas été invité à ce dialogue, dit que le Congo traverse des problèmes difficiles comme la gouvernance électorale. Il parlait aussi de la présence du Fonds monétaire international qui témoigne de ce que le Congo va très mal. Est-ce que vous auriez souhaité qu'en lieu et place d'un débat politique sur les élections apaisées, qu'on parle plutôt de la situation économique du pays ?
Alors moi j'aurais aimé plutôt qu'on abordât des questions de fond. Évidemment, ça c'est une question, mais il y a des questions de sécurité, des questions de paix. Nous savons qu'avec toutes les guerres, toutes les situations, les conflits que nous avons connus, le tissu social congolais a été délité avec le clientélisme politique. Donc les problèmes du Congo sont très profonds. Le peuple congolais est pratiquement émietté, parcellisé à cause, évidemment, tout à l'heure, mon frère du pouvoir nous a parlé des partis ethniques que moi j'appelle des tribalocraties. Il y en a beaucoup. Donc chaque ethnie, chaque tribu au Congo semble avoir un parti politique. Pourquoi une société ne peut pas être autant délitée et aller à une élection? Les questions du Congo sont plus, les problèmes du Congo sont plus profonds que la tenue d'une élection.
Merci, M. Malonda. M. Ouangui, est-ce que vous partagez le point de vue de M. Dion qui défendait que cette concertation était représentative et inclusive? Quel est votre sentiment au niveau de la société civile?
Bon, d'abord dire qu'il y a eu des règles qui ont été établies pour l'organisation de ce dialogue. En ce qui concerne les partis politiques, un travail a dû être fait au niveau du ministère de l'Intérieur. Et à partir de ce travail, certains partis, qu'on vient de dire tout de suite, les partis qui n'ont pas de représentativité, les partis qui ne regroupent que les membres d'une seule famille, tout ça, tous ces partis qui n'ont pas répondu aux règles définies par la loi sur les partis politiques au Congo ont été mis de côté. Et ce sont ces partis qui aujourd'hui disent que ça n'a pas été inclusif parce qu'évidemment, ils n'ont pas participé.
Et l'absence des opposants, comme le général Makumukoko qui est en prison, est-ce que vous pensez que c'était une erreur de ne pas avoir toute l'opposition impliquée à cette concertation?
Vous aurez dû imaginer qu'il y a eu un procès à Brazzaville. C'est vrai que chacun a son opinion. Chacun est libre de penser comme il entend. Mais moi, en tant qu'acteur de la société civile, je constate qu'il y a eu un procès. Des gens considèrent cela comme étant un procès politique. Et il y a d'autres qui définissent qu'il y a eu des
infractionnels. Et vous pensez que c'est un procès comment?
Moi, je ne porte pas ces jugements de valeur. Je constate seulement qu'il y a eu un procès et que Moukoko a été condamné. Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'on le sort de la prison uniquement pour l'assister au dialogue? Si une opinion comme ça existe, je la respecte. Mais moi, je tiens simplement en ligne de compte du fait qu'un cadre a été établi, les gens ont été invités avec un objectif précis d'aller discuter sur les mécanismes qu'on peut mettre en place pour améliorer nos processus électoraux. On connaît que les faiblesses existent, mais comment ensemble on peut faire pour corriger ces faiblesses? Voilà l'esprit du dialogue. C'était cela. Et ceux qui ont participé, les uns des autres ont dû librement s'exprimer et ça s'est terminé tel que ça s'est terminé avec les conclusions que nous avons vues. On sait que les gens n'ont pas pu s'accorder leur violon sur un certain nombre d'aspects et autant que société civile, nous essayons toujours de continuer à exhorter qu'au-delà Merci. De la concertation qui venait d'avoir lieu à Madingou, que la concertation puisse toujours se poursuivre
Merci
afin
beaucoup.
Que les points gordiens qui existent, de voir dans quelle mesure on peut toujours améliorer la compréhension.
Merci beaucoup. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et suite et fin du grand rendez-vous avec nos invités, Jean-Bruce Pambou Malonda, porte-parole du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, Patrick Dion, président du PCT en France, le parti au pouvoir, et Cephas Ewangi, coordonnateur national des réseaux et associations de la société civile œuvrant pour la gouvernance démocratique et électorale, la CORAGED en ligne de Brazzaville. Messieurs, nous allons parler encore 5 à 6 petites minutes sur cette de ce débat, de cette consultation qui s'est tenue dans votre pays. Je vais m'adresser à vous, M. Dion. En quoi est-ce que cette concertation est différente des précédentes? Vous-même, vous veniez de dire qu'on en était à la 6e organisée avant les élections.
Alors, il n'y a jamais de concertation de trop. Tout débat, tout échange, toute recherche de quiétude, de paix est toujours la bienvenue. Alors, si je me réfère seulement aux deux grandes conclusions de cette concertation politique, je pense qu'on peut, bon, on peut être optimiste qu'il n'y aura pas d'incident.
Vous parliez de quel, notamment? Vous parlez du maintien de l'usage du bulletin unique et de la tenue d'une révision des listes électorales.
Les deux grandes, ceux qui ont fait l'unanimité, hein, les deux grandes conclusions qui ont fait l'unanimité, c'est la révision extraordinaire des listes électorales et la deuxième conclusion, c'est le recensement administratif spécial. Alors, si on se base à l'ancienne élection présidentielle, celle de 2016, et du dernier recensement qui a été fait en 2015, je pense qu'en se basant sur ce fichier électoral-là, en faisant la soustraction de tous ceux qui sont morts et puis en additionnant les nouveaux qui viennent d'arriver, je pense qu'on
peut...
qui vient d'atteindre la majorité. On peut avoir un fichier, je dirais, crédible et fiable. Or, si le fichier électoral est crédible et fiable, et l'opposition, et la majorité présidentielle, et le centre tombent d'accord sur le fichier électoral, je pense que nous irons vers une élection crédible, qui n'aura pas d'incident.
En tout cas, le gouvernement a promis de mettre tout en œuvre pour que ces conclusions soient appliquées. Est-ce que vous y croyez, M. Malonda, que cette fois, quelque chose va effectivement changer au niveau de l'organisation de l'élection en mars prochain dans votre pays?
Je n'en crois pas un seul mot du tout. Alors, je vais vous prendre un fait. Vous savez, notre pays est totalement délabré, il n'y a pas de route. Même quand mon frère parle de la révision des listes électorales, j'ai cru lire aussi dans le résumé donc de ce que nous, on appelle ce rassemblement, ce festival de batraciens. Donc, voilà, j'ai pu lire que quelque part, il y aura la distribution des cartes électorales à chaque électeur. Mais j'entre, mais qui m'entend? Vous connaissez les conditions, nous connaissons bien dans quelles conditions se trouve notre pays. Il n'y a pas d'adresse dans certaines villes comme Pointe-Noire, dans Dolisie, partout, dans tous les 12 départements du Congo. Nous savons qu'il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de route, il n'y a pas de statistiques au Congo. C'est une administration totalement déstructurée. On nous parle aujourd'hui de refaire le liste électorale à 4 mois. Vous imaginez un peu, à 4 mois d'une élection aussi importante que celle-là?
Qu'est-ce que vous auriez proposé, M. Malonda, qu'on ne fasse rien et qu'on parte aux élections dans les conditions antérieures à ce dialogue, à cette concertation?
Alors, vous m'interrogez là sur les positions qui sont celles du CRC. Je vais vous dire la vérité, que pour nous, le CRC, cette élection ne devra pas se tenir parce que, sans façon, Denis Sassou Nguesso doit partir du pouvoir. Nous nous organisons pour créer une insurrection populaire avec les militaires et le peuple dans l'ensemble pour dégager...
Merci, M. Malonda. Nous ne pouvons pas laisser aller dans ce sens parce que nous souhaitons que le débat reste dans le cadre de ce que nous avons proposé ce soir. Les conclusions de cette concertation vont-elles permettre d'obtenir des élections apaisées cette fois dans votre pays? Monsieur Ewangi, qu'est-ce que vous attendez après cette concertation? Qu'est-ce qui, d'après vous, doit être fait pour que les conditions d'organisation de la présidentielle de mars prochain soient meilleures que les précédentes?
Je dirais d'abord une chose importante. Larry Dumont, qui a beaucoup théorisé sur les questions de démocratie, a souligné que la démocratie ne peut pas triompher dans un environnement où la culture démocratique n'est pas inscrite dans le corps social. C'est fondamental, la culture démocratique. Et la culture démocratique permet à chacun d'avoir à l'esprit que quand on va dans une élection, il doit toujours avoir un gagnant, il doit avoir des perdants. Si on n'a pas compris ça, si vous avez 5
Mais ça, c'est aussi si les règles du jeu sont transparentes. Ça dépend aussi des règles de jeu qui ont été mises en place. Est-ce que les règles de jeu permettent qu'il y ait l'exercice libre du vote et qu'il y ait un scrutin libre?
Voilà, pour apprécier les règles du jeu, on a dit tout de suite qu'il y avait une commission qui a travaillé sur le cadre réglementaire des élections. Il faut lire la loi et s'en rendre compte que la loi électorale congolaise en vigueur crée toutes les conditions pour que toute élection soit libre, régulière, transparente et équitable. Quitte à ce qu'on constate que dans la pratique, il y a eu quelques faiblesses, encore qu'il faut bien les identifier, être capable de les prouver. Mais est-ce que la loi congolaise crée des conditions pour que les élections ne puissent pas être... Est-ce que la loi congolaise en vigueur crée des conditions d'anticipation pour un candidat? Et si quelqu'un qui le dit
il met quel argument sur la table ?
Merci.
C'est la question qu'on peut se poser. Et ce qui fait que quand les gens étaient à Mandingou, oui.
Merci, monsieur Wangui. Il nous reste 2 minutes et on va laisser 30 secondes à chacun de nos deux invités aussi. Patrick Ndion, un mot de conclusion. Pour vous, l'élection de mars prochain présidentielle sera apaisée grâce aux conclusions, grâce à cette concertation ?
Oui, je reste optimiste et je conduis, j'invite mon compatriote, M. Pombo Malanda, d'être aussi optimiste. Il ne faut pas à tout moment être toujours pessimiste. Aujourd'hui, mon compatriote Stéphane, M. Iwangi, vient de le dire, la loi électorale, les lois, la constitution autorisent à ce que nous puissions être optimistes. Et avec la concertation politique qui a eu lieu, avec le nombre important qu'il y a eu de participants, je pense qu'on peut être optimiste que l'élection de 2021 se passera dans de bonnes conditions.
Merci
ça sera
beaucoup.
Libre, ça sera transparent.
Monsieur Malanda ?
Alors, pour nous au CRC, aussi longtemps que les conditions de démocratie et de liberté ne seront pas réunies au Congo, il ne peut pas avoir d'élection crédible. Ce qui s'est passé, c'est une supercherie. Voilà. Il n'y aura pas d'élection crédible au Congo. De toute façon, qu'il soit assuré de remporter cette élection. Il devrait se tenir.
Merci beaucoup, messieurs. C'était Jean-Bruce Pambou Malanda, porte-parole du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, en ligne de Paris. Patrick Ndion, président du PCT en France, en ligne également de Paris. Le PCT, c'est le parti au pouvoir au Congo, était également avec nous dans cette émission. Et merci à vous, messieurs, et également à Sefa Sewangi, coordonnateur national de la CORAGED, le réseau et association de la société civile œuvrant pour la gouvernance démocratique électorale. Merci à vous Hugo Vallière et Edouard Ning pour le soutien apporté pour cette émission. Merci à vous messieurs d'avoir participé. Au revoir et bonsoir.